Chers collègues, je remercie d'abord le comité d'organisation de m'avoir invité à présenter cette communication. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'étais chercheur au CNRS en géologie de la profondeur, l'interaction entre la croûte et le manteau. Par la suite, je m'intéressais également à la minéralogie et à la métallogénie, c'est-à-dire la science qui s'occupe de la genèse des ressources métallifères. Par la suite, je suis devenu archéologue et un jour, je suis devenu historien, l'histoire étant une science auxiliaire de l'archéologie, n'est-ce pas ? Et à l'heure actuelle, depuis quelques années, j'enseigne l'histoire des sciences et des techniques, l'archéologie, les tenants et aboutissants de l'archéologie et l'archéologie industrielle, qui est une de nos spécialisations. Et donc, je souhaitais apporter des regards croisés, science, technique, un peu de réflexion épistémologique sur la question des ressources en métaux et plus particulièrement métaux précieux, avec un peu d'entrée en matière, un peu d'historiographie, en démarrant par une personne qui était pharmacien de son métier, qui se disait minéralogiste, mais à l'époque, il a parcouru l'Est, le Centre et le Nord de la France à cheval, durant une trentaine d'années, dans le dernier tiers du XVIIIe. Il était à la fois, en tant que minéralogiste, à la fois géologue, donc vraiment poussait la connaissance dans ses retranchements les plus raffinés qu'on pouvait obtenir à l'époque, ingénieur des mines et métallurgiste. Pourtant, on était à l'époque de la préchimie, où on essayait d'expliquer par des théories comme le phlogistique, les réactions de combustion. 100 ans après, Daubré, qui a été professeur de minéralogie et de géologie à Strasbourg, mais qui est allé à Paris ensuite, a contribué à établir les fondements c'est une dimension nouvelle, d'une archéologie, c'est-à-dire en questionnant les ingénieurs des mines, essayer de restituer le passé de l'extraction minière par les vestiges. Et cette archéologie minière a trouvé des lettres de noblesse avec Ardaillon dans son étude sur les mines de l'Orion, qui ont fait la fortune d'Athènes. L'archéologie minière moderne s'est structurée en 70, j'en étais une des chevilles ouvrières, à partir des années 70. Elle a comme ligne de conduite l'interdisciplinarité entre l'étude du terrain, un va-et-vient permanent, l'étude du terrain, les textes et l'éclairage par l'apport des sciences exactes, l'une des disciplines se nourrissant de l'autre. Alors, je voulais illustrer tout ça en mettant l'accent sur les métaux précieux. Je me suis dit, chouette, les ressources, ça c'est tout à fait pour moi. Mais je me suis très vite rendu compte que j'avais affaire à un univers. Une encyclopédie ne suffirait pas à égratigner le sujet. Alors, j'ai pris la décision de travailler sous la forme d'un petit tour exploratoire, sous la manière de tableaux. 7 tableaux, pour atteindre aux chiffres magiques. 7 tableaux, une sorte de mise en scène, comme un théâtre à scène tournante. Et chaque fois, on ouvre le rideau sur un nouveau tableau qui nous permettra de nous plonger dans certains aspects de ce vaste domaine. Le premier, c'est un classique de l'archéologie, les fouilles qui ont démarré en 1984, assez grande profondeur, au-delà de 50 mètres de profondeur, au large de la Turquie, dirigé par Georges Bass et son équipe, alors une épave qui remonte à 1400 avant notre ère. Ce qui est stupéfiant, c'est le catalogue, vous l'avez là sous les yeux, catalogue de ce qu'on a trouvé dans cette épave. Ça me fait penser, puisque Jean-Marie Lenz ce matin nous parlait d'opéra, et que moi-même je pratique le chant, à Il catalogo è questo, dans Don Giovanni. Voilà le catalogue. Alors, on y trouve évidemment de l'or et de l'argent, on y trouve de l'ambre de la Baltique, on y trouve du bois des grumes, de bois d'ébène d'Afrique, des coquilles d'œufs d'autruche. Ça permet quand même de se questionner sur les mouvements, sur les provenances de matières premières, sur les itinéraires des produits et sur les produits manufacturés pour une période, somme toute, très reculée de l'histoire. Et dans ce catalogue, on trouve environ 200 blocs de verre colorés en bleu. Alors ça, c'est pas nouveau, le verre. même le vert bleu, déjà chez les Sumériens. En revanche, ce qui nous interpelle, c'est d'expliquer comment on obtient le vert bleu. C'est-à-dire qu'il fallait quand même penser à extraire quelque part, soit en Europe centrale, dans ce qui sera plus tard les monts métallifères saxons, soit dans les montagnes de Perse, ce minerai qu'on appelle au début du XXe siècle la smaltine, qui n'affleure pas dans les chapeaux des filons, mais qu'on trouve en profondeur. Il fallait penser à le concasser, il fallait penser à le griller, et il fallait penser à mettre une pincée de cette substance noire et inattractive dans du verre en fusion. C'est ce que j'appelle l'improbable expérience. Et là, nous sommes en présence, je prends cet exemple-là, on pourrait les multiplier, d'un acharnement des hommes à rechercher des ressources communes ou rares de la nature et à leur trouver des utilisations impliquant la transformation de la matière, c'est-à-dire l'éveil de l'expérimentation. En même temps, ces substances, il fallait évidemment communiquer, donc leur attribuer des noms, n'est-ce pas ? Ne pouvons-nous pas y voir une première ébauche d'une description du réel, c'est-à-dire les prémices d'une pensée scientifique ? Donc ça, c'est déjà dès 2000, 3000 peut-être avant notre ère. Alors évidemment, l'improbable expérience a dû se doubler de milliers d'autres, de dizaines de milliers d'autres. Et là, on rejoint ce qui a été dit ce matin dans la chimie intermoléculaire, dans le darwinisme qui a récompensé les expériences productives. Ça me paraissait tout à fait intéressant. 2000 ans après, on est entre 1711 et 1715, on retrouve la même substance qu'on a retrouvée. Cette fois-ci, ce qui est nouveau, c'est la fouille archéologique. C'est la rencontre entre la fouille, ça s'est passé vers 1990, une iconographie exceptionnelle de par cette qualité. Vous voyez ces figurations d'un bâtiment, oui, merci, d'un bâtiment industriel, qui amène à connaître les processus d'élaboration de cette substance, qui est finement concassée au bocard d'abord, machine à concasser les minerais, ensuite à la meule, qui donne le bleu d'azur et qui sera incorporée dans la coloration des maisons alsaciennes du XVIIIe, par exemple, ou dans l'élaboration des poteries au bleu. Ce n'est que 25 ans après la fondation de cette usine que Brandt isole le cobalt. Le deuxième tableau nous met en présence d'un programme de recherche archéo que j'ai suivi du début jusqu'à la fin sur une trentaine d'années dans un endroit qui s'appelle Altenberg, ça se situe à Sainte-Marie-aux-Mines. Ce qui est intéressant, à l'heure actuelle, c'est un PCR, un projet collectif de recherche, ce qui est intéressant, c'est que ce PCR a livré, au travers de cet Altenberg, un véritable laboratoire d'études de 700 ans d'extraction et de métallurgie du plomb et de l'argent depuis les origines, un moine nommé Bidulf, qui semblerait-il démarre l'exploitation en 937 jusqu'en 1637, année fatale au moment de la guerre de 30 ans. Alors évidemment, ces 700 ans ont été maillés de temps forts et de périodes un peu de relative récession, mais jamais d'interruption. Notamment dans les débuts, dans les années 930-950, on creuse des puits sur les filons. C'est la carte que vous avez ici. Alors, ces filons, ces puits sont alignés, ce sont les petits points, l'étage grise représente l'état des blés, ces puits sont alignés parce qu'ils sont évidemment sur l'affleurement d'un filon, et c'était très facile. Une fois que le prospecteur avait repéré un emplacement sur le filon, il suffisait de dévider la ficelle, de regarder dans quelle direction le filon se prolonge. Mais quid de la première découverte ? Comment est-ce qu'on est arrivé ici, pour la première fois, à cet endroit ? Là, de multiples scénarios sont possibles, ont été écrits, ou ont été rédigés, ou ont été transmis sous la forme de légendes. Autour de l'an 1000, on assiste à un nouveau scénario. Ce sont les galeries de Soucavage, en contrebas des crêtes des Filons, qui s'accompagnent d'ailleurs d'un certain nombre de fonderies que nous avons fouillées, qui se caractérisent par des sols rubéfiés. On n'a pas trouvé de four véritablement construit, mais des surfaces de chauffe. Et à partir de là, nous allons assister dans l'histoire à un certain nombre de changements. Alors j'ai dit les trois révolutions techniques, le mot révolution est peut-être un peu fort. Et ces micro-révolutions techniques n'ont de valeur que locale. Il est clair que la continuation des projets de recherche impliquera des comparaisons avec des régions proches ou éloignées, de manière à travailler sur les transferts, sur l'innovation dans la technologie. En tout état de cause, dans cet Altenberg, on constate un premier changement vers 1250, avec une fonderie qui s'établit loin du Filon. On est à près de 2 km de distance, qui a le courage de faire le saut pour s'établir au bord de la rivière, parce qu'elle bénéficiait là-bas de l'énergie hydraulique. Deuxième changement, vers 1350, 100 ans après, ce sont les premières tentatives de tri après concassage. Avant, on mettait ensemble le minerai et sa gangue, et on obtenait des scories comme celle-ci, bourrées de silicate de fer, la faïalite. Après 1350, on commence timidement à laver le minerai, c'est-à-dire le concasser et le concentrer par l'action de l'eau. Ça donne naissance à un autre type de scories, c'est la photo du bas, des scories vitreuses, et dans les profils archéologiques, des lits de sable et de boue de lavage. Ça, c'est un changement notoire. Notez que des niches d'inertie subsistent durant 150 ans environ après ce passage. Le troisième changement, c'est sur l'image de droite, c'est le graduel de Saint-Dié de 1513. C'est le passage au système technique d'Agricola avec le concassage hydraulique des minerais. La conclusion à ce deuxième tableau, c'est que l'archéologie constitue un outil très puissant pour écrire l'histoire des techniques et partant l'histoire des sociétés. Reste-t-il une place à la science dans tout ça lorsque l'on voit que les hommes de l'art ont poussé à un tel raffinement le savoir-faire dans l'extraction des minerais et dans l'obtention du métal ? Le tableau 3, c'est le jardin de la santé. C'est une sorte d'encyclopédie éditée à Strasbourg chez Prusse. Ça s'appelle donc Hortus Sanitatis. J'ai étudié, il y a quatre parties, j'ai étudié la partie sur les pierres, les minéraux et les pierres. C'est une sorte de recensement de tout ce qu'ont produit les penseurs de l'Antiquité, du Haut Moyen-Âge, les Arabes, le Moyen-Âge, l'Occident médiéval, notamment à partir d'Albert le Grand, et d'apporter une petite valeur ajoutée avec les débuts de la pensée humaniste. C'est très pratique. C'est dans l'ordre alphabétique, ça démarre par Adamas, le diamant. Il est dit que c'est la pierre la plus dure, mais qu'on peut l'attendrir en la plongeant dans le sang d'un bouc auquel on a fait boire beaucoup de vin. Et le reste est de cet acabit. C'est quand même, on arrive, ce sont les pratiques, les applications dans la vie. C'est une encyclopédie très proche des usagers. Très éloigné de l'entendement actuel sur les 186 pierres décrites, j'ai pu en identifier 36 à des espèces minérales connues des minéralogistes actuels. Indéniablement, on y détecte un socle scientifique par l'effort descriptif, qui n'est pas très neuf depuis Albert le Grand, par la compilation, mais très orienté en direction des pouvoirs occultes et des usagers, très loin du quotidien de la pratique du prospecteur et de l'exploitant des mines et du fondeur. Le tableau numéro 4, c'est une ville en Bohême à l'époque des humanistes, on est vers 1530. Bon, les illustrations ne se rapportent pas forcément à cette ville de Bohême. Là, on a le livre des mines de Schwarz, ça se passe au Tyrol, et puis quelques photos des galeries de mines de Sainte-Marie-aux-Mines, mais parfaitement contemporaines. On est 21 ans après l'Hortus. Et nous assistons ici à un dialogue entre un mineur, qui s'appelle Berman, un penseur nourrit la pensée d'Aristote, Nicolas Ancon, et Jean Nevius qui incarne l'auteur. L'auteur est né en Saxe en 1494, il a voyagé en Italie, il s'est installé à Yakimov, dans le massif de Bohême, il est ensuite devenu maire de Chemnitz en Saxe. L'auteur s'appelait Georges Bauer, alias Agricola, auteur bien plus tard encore de cette fameuse encyclopédie sur les mines et les métaux. Alors, Agricola reprend dans ce dialogue l'attitude des hommes par rapport aux mines et aux métaux, et notamment la tradition antique qui assignait aux mines une quantité de nuisances à l'air, à l'eau, à la santé, les caprices de la fortune, l'or associé à la cupidité, le fer à la guerre. Eh bien, Nevius, alias l'auteur, revalorise les mines en disant, vous voyez, ça permet de drainer les eaux, d'assainir le climat par les coupes rases qu'on y fait dans la forêt et de repeupler la légende de ce dessin. C'est quand même Freut euch, es ist ein Bergwerk entstanden. Réjouissez-vous, de nouvelles mines sont en train de se développer. Le tableau 5, une fonderie de Licassion à la Renaissance. Là, on bascule dans les années 90. C'est un basculement. On a pratiqué beaucoup d'archéologie minière souterraine avant 90. Dans les années 90, on s'est intéressé au passage, qui est une incroyable alchimie entre le minerai, qui est une pierre, et le métal, qui est livré sous forme de lingots. Ça a été évidemment pour fouiller une fonderie, il a fallu mettre en œuvre une prospection stratégique qui a livré à notre grande stupéfaction pas moins de 55 fonderies de l'époque de la Renaissance qui s'écartent des mines jusqu'à 20 km de distance, ce qui permet de réaliser une véritable géographie de l'histoire pour le XVIe siècle. Et surtout, cette fonderie, alors ce qui est intéressant, voilà le premier stade de la fouille. Évidemment, tous les curieux qui sont venus nous rendre visite nous ont dit « Vous voyez bien que vous n'avez rien trouvé », mais le responsable de fouille, c'était moi, a remarqué ces pierres alignées qu'on retrouve ici. Et vous avez sous les yeux le four 1 et le four 2 de la première fonderie d'argent de la Renaissance qui a été fouillée en Europe. Alors ça, c'est une chose intéressante. Ce qui est plus intéressant et un peu épistémologique, c'est de comparer la fouille au dessin. Ici, le dessin du peintre Heinrich Gross, peintre du duc de Lorraine. On se dit ça ressemble un peu, mais ça ressemble pas trop quand même. Le dessin nous montre la fonderie en train de fonctionner, nous montre la roue hydraulique, etc. Nous, la roue hydraulique, on a réussi à trouver son emplacement, mais le site tel qu'il a été livré par la fouille ne ressemble pas vraiment. En revanche, le privilège du fouilleur, de l'archéologue, c'est d'être en face du réel et de pouvoir toucher, sentir, respirer le réel. Et le réel, le dessin n'est pas du réel, ce n'est qu'une figuration, ce n'est qu'un artifice. La fouille est irremplaçable, elle vous donne une foule d'informations que vous ne trouverez pas dans l'iconographie ni dans les descriptifs encyclopédiques. Le deuxième point intéressant par rapport à cette fouille, c'est qu'elle nous a livré un certain nombre de matériaux, des plus variés. Voilà une toute petite partie du catalogue. À droite, ce sont des cristaux de minerai, du plomb, de l'oxyde de plomb dans différentes formes, ici même une goutte d'argent, des scories, des parois de four, des néoformations, dont les compositions sont extrêmement variées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur ces matériaux pour essayer de restituer les procédés, c'est-à-dire de mettre en adéquation le savoir-faire du fondeur et la connaissance scientifique que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il est clair que ce sont des réactions d'oxydoréduction, les réactions de métallurgie, eh bien, tant qu'on n'avait pas découvert l'oxygène, vous ne pouviez pas comprendre quoi que ce soit à ces réactions. Et à partir de Lavoisier, les techniques de la métallurgie se sont orientées dans d'autres directions. Donc on essaye de remettre ça en phase. Donc je vais passer, zapper sur le tableau 6. Sur le tableau 7, juste deux mots. L'or est un élément très intéressant parce qu'il permet déjà de saisir le contraste entre les logiques économiques de l'extraction, l'orpaillage, les ruées vers l'or, qui sont un fantastique déséquilibre social et en même temps, a priori, la chance individuelle, ou alors, qui est toujours d'actualité, ces photos d'une barge et d'un orpailleur en Guyane, je les ai prises l'été dernier, et la découverte des veines, le Motherlode, les veines qui ont donné naissance à l'or alluvionnaire, dont l'exploitation est évidemment très fortement régie par les logiques économiques. Et le cas d'école, c'est le filon Comstock, Comstock Lode, dans le Nevada, où vous voyez, les pointillés délimitent les concessions. Elles font 200 mètres dans le plan du filon, verticalement jusqu'au centre de la Terre. Et là, c'est une question, c'est une histoire de loterie, totalement. Parce que les méthodes de l'époque de prospection ne pouvaient pas prévoir si dans cette concession, par exemple, on allait trouver un amas de minerais ou pas, c'est-à-dire une bonanza. Et je trouve très intéressant de mettre ça en parallèle avec le découpage vertical des concessions dans les mines de l'Empire germanique à l'époque de la Renaissance, où on a les mêmes logiques. Voilà. Et donc, les conclusions à tout cela, j'ai mis pour mise en parallèle entre le paysage minier de la Renaissance ici, un paysage minier actuel, une mine d'or aujourd'hui, des fonderies de la Renaissance. Il y a un tas de conclusions qui se bousculent évidemment dans mon esprit qui seront dans la publication. D'une part, les principes de base n'ont pas fondamentalement changé entre les parsonniers du duc de Lorraine, c'est-à-dire les actionnaires en 1315, on a un texte magnifique là-dessus, et les conditions économiques actuelles. D'autre part, le subtil équilibre qui préside aux exploitations minières entre les caractéristiques morphologiques, chimiques, minéralogiques, pétrographiques du gîte, son positionnement dans le climat, le relief, l'altitude, la latitude, les voies de communication, le cours des métaux, les progrès de la métallurgie, les politiques des États, la conjoncture, la concurrence. Là, il faudrait un polyèdre à 25 faces, à 25 côtés, et l'aide de Cédric Villani pour essayer de démêler cet écheveau. Et enfin, les réserves. Alors, on va, je pense, avec le communicant suivant, on va parler des questions de réserves. Certains auteurs sont très pessimistes en disant on en a pour 15 ans pour tel métal, 50 ans pour tel autre, 25 ans, 70 ans. Il est clair que si on place sur une règle de 70 cm l'histoire de la métallurgie, si on en a pour 100 ans, en moyenne, ça fera 1 cm sur la règle. Donc, on n'en a plus pour très longtemps.
Merci.
Merci
pour ce brillant exposé.